Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour. Je suis très heureux une nouvelle fois de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Libre Journal de la Nouvelle Droite. Dans le studio, en ma compagnie, pour le moment, Romain Petitjean, responsable du développement de l'Institut Iliade. Romain, bonjour.
Bonjour, merci de m'inviter.
Et un habitué de l'émission, Daoud Bouguezala. Daoud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et reporter pour la revue Éléments. Nous devrions être rejoints, nous l'espérons du moins, par également François Devoyer, bien connu des auditeurs de Radio Courtoisie, puisqu'il est patron d'émission sur notre chère radio et qui nous rejoindra au cours d'émission, nous l'espérons. Voilà, nous croisons les doigts. Aujourd'hui, pour ce Libre Journal de la Nouvelle Droite, nous avons plusieurs sujets à évoquer qui sont tous plus ou moins en lien avec le nouveau numéro de la revue Éléments. Éléments pour la civilisation européenne, donc le magazine de la Nouvelle Droite, qui sort actuellement son numéro 219 avec une magnifique couverture sur laquelle vous retrouvez l'icône du cinéma français Brigitte Bardot, une très belle photo de Brigitte Bardot pour illustrer le dossier central de ce numéro 219 qui est l'identité française. Peut-on encore être français? Que reste-t-il de notre identité nationale? Donc un thème particulièrement d'actualité que nous évoquerons certainement au cours de cette émission. Mais nous allons parler également d'autres sujets qui sont évoqués dans la revue, puisque comme vous le savez, une des spécificités de la revue Éléments, c'est son éclectisme. Hein. On aborde de nombreux sujets, notamment, là je vous le dis ça un peu rapidement, mais vous trouverez dans ce numéro un débat tout à fait passionnant sur l'expressionnisme allemand, art dégénéré ou régénéré, un retour sur la triste et sombre affaire Epstein, prise de position d'Alain de Benoist sur l'Europe face à Donald Trump et bien d'autres choses. Donc nous allons évoquer différents sujets au cours de cette émission, mais si vous le voulez bien, pour commencer, je voulais qu'on parle un tout petit peu d'actualité, mais d'ailleurs ce ne sera pas totalement détaché des sujets que nous allons aborder, mais je voulais qu'on revienne quand même quelques instants sur ce qui a marqué l'actualité politique de ces derniers jours et ces dernières semaines, ce sont les élections municipales. Alors, on fait un petit tour de table qui va être assez bref puisqu'il manque de nous inviter, mais en tout cas on peut commencer par là. Quelque chose vous a-t-il marqué dans ces élections? Est-ce que vous tirez une leçon politique particulière de ces élections, ou est-ce que c'est une élection de plus dans notre destin démocratique français? Romain, est-ce que vous avez été particulièrement choqué ou enthousiasmé peut-être, hein, c'est pas forcément négatif, par ces élections?
Alors, peu enthousiasmé, je pense que la leçon c'est un peu la même que d'habitude, c'est que la politique commence le lendemain des élections, une fois que la gueule de bois est passée, une fois que le petit cheval pour lequel on a joué n'a pas passé la ligne en premier, ou alors quand il la passe en premier, souvent il trahit les espoirs qu'on a mis en lui. Il y a quand même un taux d'abstention record. De plus en plus de gens qui se défient de la politique, qui croient au sauveur, au lieu de se prendre en main, de défendre leur foyer, de manger sainement, d'éduquer leurs enfants. Donc il y a presque un côté d'impolitique dans les élections qui, me désole. Après, il y a quand même eu des phénomènes, donc le fait que notamment LFI gagne des villes en s'appuyant totalement sur l'immigration, chose qui avait été un petit peu conceptualisée par Terra Nova au début pour le PS, c'est-à-dire les élites, entre guillemets, éclairées, les profs de gauche des centres-villes, plus les immigrés. Et puis finalement, LFI s'appuie sur ce concept politique. Dans les faits, les petites victoires qu'ils ont eues, hein, parce que ça a été entre guillemets grossi par les médias, il n'y en a pas eu tellement des villes gagnées par LFI, à chaque fois ça a été par des gens issus de l'immigration. Le reste reste dans l'escarcelle du Parti Socialiste ou des écolos. Voilà en gros ce que ça m'inspire. Après, on a tous entendu le mot d'ordre qui me plaît beaucoup de Jean-Yves Gana pour un nationalisme municipal. Je pense que c'est une voie importante à prendre, puisque l'échelon local, on voit des décisions quand elles sont prises, on voit l'effet des décisions sur le quotidien des gens. Donc il y a un levier sur lequel tirer, donc ça reste de bon augure.
Très bien, Daoud, une réaction ?
Alors, j'ai été aussi frappé par la bonne tenue de LFI dans les villes parfois à majorité immigrée comme Saint-Denis, puisque le nouveau maire de Saint-Denis a été élu dès le premier tour de manière très spectaculaire. Donc, effectivement, c'est l'application de la doctrine Terra Nova qui a opéré un glissement petit à petit du PS vers LFI. D'ailleurs, en faveur du flanc immigré, en fait, dans l'alliance bobo-immigré. Et ce qui d'ailleurs me fait dire que, sans exagérer par effet de loupe les succès mélenchonistes, on est peut-être victime d'un biais cognitif parfois un peu droitier dans la diabolisation de Mélenchon. Et force est de constater que l'affaire Quentin, quand même assez récente, a eu peu d'effets politiques électoraux directs, me semble-t-il, sur les résultats de ces élections. La diabolisation de Mélenchon est tout aussi contre-productive peut-être que celle de Le Pen en d'autres temps. Et une autre partie des résultats des scrutins qui m'ont aussi frappé, sans me surprendre, c'est la progression du RN à la fois dans des foyers très ouvriers dans le bassin minier, qui, alors c'est pas tout à fait nouveau, mais il y a encore quelques années, le RN était plébiscité dans les élections nationales, législatives, présidentielles, et il y avait un reliquat de tradition socialiste municipale, bon, c'est en train de s'étioler, hein. Et puis dans des villes plus ou moins sinistrées, moyennes, comme Carcassonne, Vierzon, Montauban, il y a aussi des succès du RN, voilà.
Oui, alors je voulais juste revenir sur deux choses que vous avez évoquées qui me semblent particulièrement intéressantes. C'est d'une part l'abstention. La question de l'abstention, je trouve qu'elle a été expédiée assez rapidement dans les débats. On s'en est évidemment plaint, on la regrette, mais on l'étudie pas vraiment beaucoup. Et je voulais vous poser la question, est-ce que vous pensez que cette abstention, c'est une réserve de voix possible pour quelqu'un, ou en fait elle est définitive? C'est-à-dire c'est des gens qui ont totalement abandonné, c'est pas des gens qui se reconnaissent pas dans l'offre politique, c'est simplement des gens qui se désintéressent de toute forme de politique et qui sont maintenant totalement détachés de ces choses-là et qui se sont, on va dire, retirés, recroquevillés sur leur individualité ou sur leur famille. Ce mythe d'aller chercher les abstentionnistes, ça vous paraît encore impossible, Romain ?
Alors moi, je pense qu'il y a une réserve de voix immigrés, justement, qui volent beaucoup pour les élections locales parce que ils peuvent avoir, comment dire, par exemple, un avantage pour un chantier de mosquée, des choses très concrètes. Pour les élections nationales, ils votent très peu. Marine Le Pen, il faut pas qu'elle fasse 50,01% des voix, il faut qu'elle fasse 55,01% des voix, parce qu'il y a des voix cachées qu'on peut mobiliser en cas de danger fasciste qu'elle représenterait. Et effectivement, ce n'est jamais mesuré, et je pense que ça, c'est un électorat dormant. Pour ce qui concerne les Français, les autochtones, les indigènes, oui, ils sont passés complètement à autre chose. Ils ne peuvent plus, à mon avis, être mobilisés sur des réflexes communautaires, puisqu'il n'y a plus aucune aspiration populaire et communautaire dans la population française, qui est complètement atomisée, qui vit dans un espèce d'environnement nihiliste où seule la consommation lui donne un semblant de pouvoir. Il peut acheter une échelle en aluminium pas cher sur Temu. Voilà, et là, il est au fait de sa puissance. Mais le reste, il est très difficile, à mon avis, de le remobiliser. Il y a quelque chose qui s'est cassé de façon un peu définitive, je pense, hein.
Alors j'en profite pour signaler à nos auditeurs que François Devoyer nous a rejoint dans le studio. Bonjour François.
Bonjour Xavier.
Et merci de participer. Alors nous étions en train de faire un petit retour sur les élections municipales et j'ai demandé à Daoud Bouguezala et à Romain Petitjean s'ils avaient été marqués par quelque chose, s'ils avaient tiré une leçon particulière de ces élections. Alors je vous pose évidemment la même question.
Eh bien écoutez, je rebondis sur le débat en cours, sur l'abstention. Effectivement, j'ai trouvé que ça avait été relativement peu soulevé dans la presse la plus habituelle et disponible. Et effectivement, elle était massive, cette abstention. Il ne faut pas oublier que dans les années 70, on était à 75% de participation. Donc, l'autre sujet, mais peut-être l'avez-vous déjà évoqué, que 2020 était une année très particulière, était un cru très spécial lié au Covid. Donc la comparaison avec 2020 est absolument inepte, en tout cas pas du tout pertinente. Et effectivement, je rejoins ce qui était dit par Romain Petitjean, c'est que il y a le sujet de l'immigration qui, elle, se mobilise au moment où c'est vraiment important, c'est-à-dire généralement les seconds tours des présidentielles et quelques seconds tours d'élections dans des zones particulières, comme je pense aux législatives en Avignon, et également, j'allais dire, les gens qui se sentent exclus déjà du corps social, qui n'y ont jamais participé, qui n'ont pas du tout envie de s'y remettre en contemplant la vie politique, mais il y a effectivement, et c'est ça qui me semble le plus intéressant, les personnes qui ont conçu ces derniers temps, en particulier à mon sens depuis les législatives 2024, un véritable dégoût de la vie politique. Et ces gens-là, je vois mal comment les repêcher, à moins d'avoir une offre. Alors là, on peut penser à Sarah Knafou à Paris, une espèce d'offre qui change totalement. Je ne dis pas que ce serait elle qui les ferait sortir. Hein. Je parle du type de campagne, de la manière de communiquer, de la, l'apparente nouveauté de la candidature. Voilà, on peut imaginer ce genre de choses.
Patrick
mais
en... Sébastien.
C'est ça, non, mais Patrick Sébastien, c'est certain.
Un antipolitique ou un bébé Grillo français.
Patrick
ou...
Sébastien, ça pourrait. À l'époque, Jean Lassalle, à sa petite échelle, pouvait rassembler ce genre de personnes. Moi, j'avais des amis autour de moi qui, dégoûtés par la vie politique, votaient pour Jean Lassalle.
Alors, qui était un guignol.
Qui était, bien sûr, mais qui était une mollesse. C'était vraiment un centre mou, rat-soc, voilà, typique. Mais il était sympathique. Il avait cet accent merveilleux, ce corps absolument dément, enfin, gargantuesque. Il avait un côté très français, en apparence au moins. Donc, il a eu beaucoup de succès à ce moment-là. Effectivement, à moins d'une candidature de ce genre, je vois mal comment... Et puis, l'autre sujet, c'est la confirmation... de la tripartition du pays, en réalité. Alors, avec un rééquilibrage de cette tripartition par rapport aux législatives 2024, donc on voit que LFI a plutôt perdu, bien sûr perdu pied, hein, comparé à l'année et demie précédente, un centre finalement qui se maintient, alors pas sous la forme visible d'Horizon Renaissance, mais à travers la masse LR, qui ressemble, me semble-t-il, hein, rassemble tout de même 57%, des villes gagnées de plus de 9000 habitants. Et puis, oui, une montée du Rassemblement National, mais franchement, assez décevante si on regarde avec lucidité les chiffres. Certes, c'est 3% des communes de plus de 9000 habitants. Alors, on se dit exceptionnel, on saute de joie. Enfin, ça n'est que 3% d'une part. On part de 20 ou 21 communes, on arrive à 71. Oui, on multiplie par 3,3, mais uniquement dans les bastions qui ont été travaillés, labourés. Il y avait un ancrage local qui a été envisagé de longue date. Mais en réalité, il y a énormément de départements qui sont, voilà, où il y a très peu de conseillers municipaux, simplement de conseillers municipaux. Et plus inquiétant encore, des départements où le Rassemblement National fait d'excellents scores, où il a de nombreux députés, et où il ne réussit à glaner aucune municipalité. Donc là, c'est, je pense que le Nord a déjà été cité, mais il y a le cas de l'Aisne, par exemple, qui est moins connu. Et oui, c'est sûr que dans l'Aisne, même si vous êtes un très bon militant, face à un directeur d'école implanté depuis longtemps, ben, les gens ont confiance dans celui qu'ils connaissent et reconnaissent. Et malheureusement, l'élection n'a pas forcément été suffisamment préparée en amont. Et quand vous investissez quelqu'un en décembre, c'est compliqué.
Sur les 71 villes RN, il y en a beaucoup qui sont passées parce qu'elles étaient sous le radar médiatique. Enfin, elles sont passées en dehors du radar médiatique. Partout où le bloc central allié donc, aux médias mainstream ont mis la loupe, là, c'est mis en branle le barrage, les alliances contre-politiques, contre-démocratiques. Et qui ont fait échouer le RN. Mais partout où il n'y a pas eu tout ce théâtre ridicule, il est passé parce que les gens... voilà, donc je pense que le score pourrait être beaucoup plus gros sans ce barrage et ce théâtre factice qui est entretenu en France, qui est vraiment insupportable.
Mais oui. ça fait partie du décor inévitable. C'est-à-dire que le RN est impensable... peut-être de moins en moins, sans la diabolisation ou sans en tout cas une grande partie du paysage médiatique et de l'établissement qui est contre lui. Et moi, je me fais la réflexion un peu inverse, je me dis, finalement, ça rejoint le débat sur l'abstention, est-ce qu'il n'y a pas une masse inerte, totalement, de plus en plus dégoûtée de la politique, dépolitisée à politique, hein, je la blâme pas du tout, et est-ce que le RN n'a pas en partie perdu sa fonction tribunicienne? C'est-à-dire que, est-ce que c'est pas une opposition institutionnalisée qu'on dit aux portes du pouvoir? Et finalement, cette masse autochtone, précarisée, elle serait pas de plus en plus difficilement mobilisable parce qu'en rupture de bord avec la politique, avec le simple fait de voter, fût-ce blanc.
Il y a une dégradation de la situation. dont profite le Rassemblement National plus que son offre de programme, on va dire. Je pense pas que... Enfin, j'ai vu le programme du RN dans ma commune ou même aux élections, c'était quand même petit. Donc, je pense qu'il s'appuie sur une dégradation générale du pays. Il y a un vote réservoir, mais effectivement, sans la fonction tribunicienne, il y a quelque chose qui peut se briser.
Je voulais revenir sur quelque chose que Romain Petitjean a dit concernant justement le fait que le RN a tendance à gagner là où on ne l'attend pas, ou en tout cas là où il n'est pas sous le feu des projecteurs, et c'est assez vrai, puisqu'en effet là où c'était concentré, Marseille, Toulon, là ça n'a pas tenu. Mais ça prouve que ce fameux théâtre antifasciste, théâtre de peur, d'entretien des angoisses et tout, fonctionne quand même toujours. Une fois qu'il n'est plus mis en branle forcément partout, mais là où il est mis en branle, en tout cas, il a fonctionné. Et ça, c'était assez inquiétant dans l'optique d'un second tour, parce que là, dans le second tour, ce sera évidemment sous les projecteurs, et on peut s'imaginer que ce fameux Front Républicain qu'on croyait plus ou moins fragilisé ou enterré reprendra de plus belle. Et moi, je pense qu'on l'a enterré justement un peu trop rapidement dans ce barrage antifasciste. Je pense que cette mythologie antifasciste fonctionne encore dans beaucoup d'esprits, même des gens plutôt éclairés, mais à qui on a tellement lavé le cerveau qu'ils ont un réflexe d'angoisse face à un vote Rassemblement National pour le passage au pouvoir suprême, entre guillemets.
Parce que les élections, c'est une passion française, tout le monde s'excite, mais les victoires, elles se gagnent ailleurs, dans d'autres champs. Donc qui a le pouvoir sur les symboles, les tabous, les images, les représentations dans les médias, dans la justice, à l'université, etc. On peut demain gagner les élections, s'il n'y a pas toutes ces batailles intermédiaires qui ont été gagnées, c'est du vent absolu. Donc la politique, c'est entre guillemets la victoire électorale, c'est la cerise sur le gâteau d'un ensemble de batailles métapolitiques et culturelles qui ont été précédemment gagnées. Ça a été très bien théorisé par Gramsci, qui était un communiste italien, mais il ne se contentait pas de parler de la bataille des idées. Il avait lui-même sa carte au Parti communiste italien. Les deux sont liés. Là, malheureusement, le RN refuse un petit peu de mener ou de comprendre qu'il y a une bataille dont il pourrait être bénéficiaire un jour.
Tout à fait. Et en effet, c'est bon de rappeler que les élections, ce n'est pas une finalité, hein, c'est une étape pour un changement d'orientation
peut-être,
du pays.
Peut-être aurait-il pondéré cette analyse sur le fameux plafond de verre et la diabolisation par l'effet générationnel. C'est-à-dire qu'il me semble que Emmanuel Macron est le premier président de la République de la 5e élu au suffrage universel par une majorité d'inactifs. Bon, je n'aime pas la démagogie anti-boomer, mais objectivement...
Mais vous allez quand même en faire.
Non, je ne blâme personne. Mais les faits sont là, c'est-à-dire que la diabolisation fonctionne particulièrement auprès des boomers, à tort ou à raison. Les jeunes, pour de bonnes et de mauvaises raisons, ils sont beaucoup moins sensibles. À mon avis, en partie pour des raisons de dépolitisation, voire de déculturation, qui ne sont pas forcément toujours réjouissantes, si on creuse un peu. Et donc, les boomers, la pyramide des âges étant ce qu'elle est, pour les prochaines élections, vont rester quand même relativement nombreux, hein, avant de s'effacer naturellement au fil des ans. Donc effectivement, il y a des années de propagande, de diabolisation, SOS racisme, etc. Des décennies même, on ne peut pas les rayer d'un trait de plume en deux ans.
Un point sur lequel je suis en désaccord avec François Devoyer, qui parlait du fait que LFI avait perdu du terrain. C'est pas vraiment le sentiment que j'ai eu pour ma part. Alors après, je dois avouer très humblement que je suis pas allé dans le détail exact des chiffres et des comparaisons, mais outre les victoires symboliques, je pense au contraire que beaucoup d'observateurs s'attendaient à ce que la France Insoumise soit beaucoup plus basse que ça, et qu'elle ait beaucoup plus subi les effets des déclarations tonitruantes de Mélenchon. Moi, j'ai plutôt l'impression que justement, ces élections valident un peu la stratégie de radicalisation de Jean-Luc Mélenchon. Au contraire.
Il n'y a pas eu beaucoup de victoires.
Il y a eu peu de victoires.
Par ailleurs,
il faut voir aussi que c'était une des premières fois où ils se présentaient quasiment partout sous leur unique couleur, ce qui est pas mal pour une première élection.
Mais
quand même.
Je pense avant tout que cette stratégie de diabolisation, elle a fonctionné, mais simplement pas dans les villes où ethniquement l'électorat LFI est majoritaire. C'est aussi simple que ça.
Oui, il ne s'intéresse pas à ces problématiques. Oui,
oui,
tout ça a découragé, on peut dire, peut-être l'électorat en effet social.
Mais à Toulouse, par exemple, la défaite de Piquemal n'est pas retentissante. Il a pas signé un score ridicule au second tour, je ne me souviens plus des détails.
Toulouse est un cas particulier. Alors, après Toulouse, c'était une alliance, ce n'était pas uniquement LFI.
Oui, au second tour, c'est vrai. Mais disons que l'alliance a relativement fonctionné.
Correctement fonctionné. Et moi, je pense qu'on n'est pas à l'abri, mais à chaque élection présidentielle, c'est un des rares points où je ne me suis pas planté. 2017, Jean-Luc Mélenchon, en octobre, je vous donnais parce que c'était toujours à la même période, fin octobre devait être crédité de 8% des intentions de vote. Il finissait à près de 20%. Il talonnait littéralement François Fillon. Oui, c'est lui qui était juste derrière François Fillon, quelques milliers de voix près. Octobre 2016, idem pour octobre 2021, où il était à peine à 8. Je me demande, il y avait plusieurs instituts qui le donnaient à moins de 8, à 7,5. Alors on disait, ça y est, c'est la fin de Jean-Luc Mélenchon, c'est terminé, l'extrême gauche s'est écrasée, sa stratégie est médiocre. Finit là encore à peu près dans les mêmes scores.
À 700 000 voix.
À 700, de Marine Le Pen. Et là encore, il est même crédité davantage qu'il n'était à cette période. On va voir en octobre, les choses peuvent évoluer. Mais il a bien compris tout de même que l'électorat immigré se mobilisait pour les présidentielles et qu'il y a là une réserve de voix considérable. Et je pense qu'il fait également un pari qui pourrait être gagnant, c'est celui de l'enlisement, aussi bien en Palestine que dans la politique internationale de Donald Trump.
Le 7 octobre est passé par là.
Exactement.
Et il est, pour le dire cyniquement, c'est la seule offre sur ce créneau dans le paysage politique.
Il a le monopole.
Ne serait-ce que sur l'opposition à la guerre en Iran.
Et je pense que tout le système s'est dit, un an après, en 2024, mais pari perdu, mauvaise pioche Jean-Luc, ouais. Et tu vas disparaître de la vie publique. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. On sent bien que si vous voyez la perception d'Israël aujourd'hui aux États-Unis, parce que je pense que c'est là-bas que c'est le plus intéressant de suivre, puisque le soutien américain est décisif pour la réussite de la politique israélienne, eh bien, effectivement, il y a un retournement qui est inédit dans la vie
publique américaine. Y compris chez les Juifs américains, d'ailleurs. Mais là, on est loin des Juifs américains,
exactement. Ouais. Tout à fait. Oui, mais en est-on si loin parce que je pense que ce pari-là que fait Jean-Luc Mélenchon, il peut vraiment être gagnant si Israël commet... En fait, c'est sans doute l'homme politique aujourd'hui le plus sensible à la politique internationale. C'est-à-dire que ça a été le cas, Zemmour et Marine Le Pen ont perdu, alors surtout Éric Zemmour, mais a perdu beaucoup de points sur la politique internationale en 2022. Et je pense que là, en 2027, c'est peut-être Jean-Luc Mélenchon qui aura le plus à gagner ou à perdre, à voir, de l'état des relations internationales.
Alors sur le cas Mélenchon, il y a une analyse que je trouve assez pertinente de notre camarade Rodolphe Carte, qui d'habitude est présent dans cette émission, qui dit que la stratégie de Jean-Luc Mélenchon est l'inverse de celle de Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle est déjà au second tour, et donc elle veut faire du rassemblement le plus large possible, et donc créer le moins de clivage possible pour rassembler. Or, à l'inverse, Jean-Luc Mélenchon, lui, il veut bétonner son électorat fidèle, donc il va dans cette surenchère entre guillemets pour justement essayer de capter les bataillons issus de l'immigration qui ne votent pas encore mais qui peuvent voter pour lui, et son but c'est le premier tour, et il imagine qu'au second tour, en effet, en jouant la carte de l'antifascisme, etc., il aura une chance.
C'est la logique de Mélenchon, il est dans la logique du scrutin majoritaire à deux tours, il est dans la logique des institutions. Marine Le Pen, je suis désolé, certes, il y a la rencontre d'un homme avec le peuple, donc il y a un côté très gaullien, mais la logique des présidentielles, c'est évidemment de rassembler son camp au premier tour, et grâce à des reports de voix, grâce à des alliances, mais qu'elle a du mal à faire, réussir le second. Arriver en un bloc, d'une part, il ne faut pas qu'elle fasse 50,01, mais 55,01, on a vu pourquoi tout à l'heure, c'est un peu contraire à la logique des institutions. Je trouve la logique de Mélenchon claire.
Les sondages actuels risquent de la faire tomber plus encore que les précédents scrutins dans le piège. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais vu, dites-moi si je me trompe, depuis en tout cas mes années de jeunesse, c'est-à-dire les années 90, de premier tour avec un candidat qui dépasse 36 pour cent, moi je n'y crois pas une seconde. Non pas parce que Marine
c'est l'effet
Le Pen,
Balladur.
Exactement, c'est le seul cas de Balladur envisagé oui. effectivement à ce genre de score de satrape iranien.
Qui a fini à 15.
Et qui a fini, ouais, exactement. Et en tout cas, souvenez-vous, 2007, qui est la dernière campagne où un candidat de premier tour bénéficiait vraiment d'une dynamique, c'était Nicolas Sarkozy. Il a fini à 32, ce qui d'ailleurs avait déçu un peu moins de 32. D'ailleurs, je me demande si c'était pas 31,8, oui. ce qui est déjà énorme.
Oui, ce qu'il avait aspiré, Jean-Marie Le Pen, qui était tombé à 10%.
Exactement, qui lui était tombé à 10. Donc, moi, ce dont j'ai peur, c'est effectivement, comme le disait Romain, souvent, le Rassemblement National a commis cette erreur de faire sa campagne de second tour dès le premier tour.
Et Mélenchon, il sait qu'à la fin, la gauche s'allie. Oui. Et on l'a revu d'ailleurs pendant les municipales. Donc ça, c'est un acquis pour lui. Alors qu'à droite, il n'y a pas d'alliance parce que ce n'est même pas techniquement possible, puisque ce n'est pas voulu.
Je pense qu'il y a aussi une erreur stratégique d'une grande partie de la droite. C'est la diabolisation de Mélenchon. C'est-à-dire que lorsqu'on écoute les médias acquis à l'Union des droites, enfin, tout le monde sait à qui je fais référence, on voit un glissement du théâtre antifasciste, c'est très drôle, vers le RN, où là, il s'agit de dénoncer Mélenchon, l'antisémite, de dire que les fascistes, l'extrême droite, c'est LFI. Et là, pour moi, ça relève vraiment de la paresse pavlovienne. Et je suis pas sûr que c'est une grande efficacité
gagnant,
en cas de second tour Mélenchon-Bardella, par exemple.
Je pense qu'on a déjà, de toute façon, toujours tort d'utiliser le vocabulaire de l'adversaire. Oui. On se place sur son terrain et on finit par perdre, parce qu'au final, ça n'a plus de sens. Les mots sont vidés de leur contenu idéologique. Et si on explique aujourd'hui que le LFI, c'est l'extrême droite, ça veut dire qu'en fait, les méchants, c'est toujours l'extrême droite.
C'est ça.
Donc finalement, c'est son camp qui perd et on se tire une balle dans le pied. Donc en effet, oui, ça, c'est vraiment
ça
un problème sémantique.
Ça relève de la morale, hein, on reste de l'impolitique.
Ouais. Hein. Je pense qu'il faut faire très attention au langage qu'on emploie et jamais aller sur le terrain du vocabulaire de l'adversaire. Et justement, ça me fait penser à un point, moi, qui m'a marqué au cours de cette campagne et de ces résultats de campagne, c'est la fameuse invention de l'expression « Nouvelle France ». Pour qualifier en fait cette poussée communautariste des populations immigrées à travers le vote LFI, beaucoup LFI eux-mêmes, mais beaucoup de commentateurs ont repris cette expression de Nouvelle France, qui me semble à la fois mensongère et fautive, parce que c'est pas une Nouvelle France, ce sont des populations importées qui vivent en France, c'est pas la même chose, et qu'en utilisant ce terme de Nouvelle France, on crédibilise l'idée qu'il y aurait une vieille France rance moisie qui serait en phase d'être remplacée par une nouvelle France. Et la nouvelle France, c'est positif, c'est quelque chose qui régénère, qui remplace. Évidemment, l'ancien a toujours vocation à être remplacé par le nouveau. Et donc, cette expression positive en elle-même est à mon avis, dangereuse à employer. Pour moi, ce n'est pas la nouvelle France, il y a une France, il y a une seule France. Le mot fait toujours peut-être un peu sourire, mais la France éternelle, entre guillemets, et il y a des tentatives d'atomisation, de communautarisation de cette France auxquelles il ne faut pas accorder, à mon avis, ce nom de nouvelle France. Bon, ça, c'était une petite parenthèse.
C'est peut-être une victoire idéologique de Mélenchon, d'ailleurs. Ah, c'est tout son,
bien
son
évidemment.
Discours, cette dichotomie entre la France moisie et la régénération
Mais bien sûr, c'est
une victoire sémantique qui lui a aussi permis de dépasser la créolisation qui était son concept précédent. Là, il installe la Nouvelle France, il gagne énormément de points, ça c'est évident.
Et c'est beaucoup plus acceptable que la créolisation
plus
comme
compréhensible
terme.
Peut-être
plus compréhensible
aussi,
également.
Puis l'un des talents de Jean-Luc Mélenchon, c'est de miser sur l'amnésie actuelle, générale d'ailleurs, hein, qui concerne pas seulement les électeurs, enfin tous les citoyens. Mais souvenons-nous qu'en 2017, après une pré-campagne très identitaire, là c'est nous qui reprenons nos mots, mais donc pour la France créolisée, il avait réussi, sans aucun complexe et sans que ça gêne personne, à faire de grands rassemblements avec le drapeau français, à Marseille, sur le Vieux-Port, tout le monde avec le drapeau tricolore. Donc il est parfaitement capable de changer de braquet, de dire voilà, bah, cette nouvelle France, j'ai voulu lui parler, mais maintenant je parle à tous les Français, et ça y est, la campagne reprend. Et il peut, voilà, il est loin d'être mort. Après, je crois pas à un second tour RN Mélenchon, mais voilà.
Alors justement, il y a une nouvelle possibilité qui semble se dessiner, enfin en tout cas qui est évoquée dans les journaux. On l'a même évoqué ce matin sur le site de la revue Éléments. C'est la carte Édouard Philippe. Édouard Philippe qui
reprend... C'est maintenant la sieste ou...
on va passer très rapidement pour pas endormir trop nos auditeurs, mais on en parle quand même de plus en plus. Depuis sa victoire au Havre, il serait à nouveau dans la course. Certains sondages, alors encore une fois, les sondages, on en pense ce qu'on veut, ils sont souvent instrumentalisés et manipulateurs, mais en tout cas, plusieurs sondages disent qu'il serait le seul capable de battre et Marine et Marion au second tour. Est-ce que vous pensez
et
Jordan Bardella, pardon, je prends mes rêves pour des réalités, peut-être, je sais pas. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous paraît crédible ou est-ce que c'est encore une fois une agitation du bloc central pour faire croire qu'il existe aussi? Après, si vous trouvez le sujet vraiment totalement inintéressant, on peut passer à autre chose.
Le bloc central aura un candidat et effectivement, il sera fort. Donc, que ce soit lui ou un autre, il est mis en scène. De fait, il est bizarre, il a un physique bizarre parce qu'il a eu une maladie, il est mou, il a échoué sur plein de sujets. Et pourtant, il reste, ça a l'air d'être un très bon manœuvrier puisqu'il reste toujours dans le paysage. Donc, il a une forme de force politique, en tout cas.
Parce qu'il ressemble un peu à Kung Fu Panda.
Voilà, ouais. C'est une forme d'ami ou de parasite qu'on peut jamais tuer, quoi. Il est toujours là, il est toujours présent et il peut représenter le bloc central et donc effectivement être élu.
Puis il a un narratif potentiellement, Édouard Philippe, c'est l'anti-Macron, paradoxalement. Le petit homme agité, très bel homme, qui n'a pas eu d'épreuve, qui tout a souri et réussi, face à ce grand chiracien rassurant qui est passé par la maladie, le silence, qui a réfléchi, qui a connu un retour difficile avec cette campagne du Havre qui n'était pas gagnée, dans laquelle il avait été capable de mettre la balance de sa future candidature à l'élection présidentielle. Le narratif est pas mauvais. Moi, je pense, j'ai toujours pensé, pour moi, il n'y a rien de nouveau là-dedans. C'est le candidat, malgré tout, dont rêve, à mon sens, le système depuis l'origine. Mmh. Et je pense que c'est un candidat parfaitement Bolloré compatible, par exemple, où, une grande partie de la droite pourrait s'y retrouver à partir du moment où il est un peu
seul,
plus sévère, exactement, loin de là, sur l'immigration, où il est, il donnera quelques gages, effectivement, à la droite de certains médias, mais finalement ça peut très bien se passer tant qu'il fait oublier son passé macroniste. La seule chose qui lui manque, à mon sens, parce que je pense moi que c'est le candidat parfait pour maintenir, pour que rien ne change, c'est l'envie. C'est-à-dire que on n'a pas l'impression que ça le ronge, on n'a pas l'impression que qu'il y pense,
on se rend tous les matins,
mais c'est vrai, je pense. Alors c'est qui peut aussi peut-être rassurer les Français, mais il n'a pas l'air enragé par la perspective d'être élu président de la République.
Il n'a pas l'air très charismatique. Enfin, on s'attend pas. J'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui irradie de façon positive, qui est la niaque. Oui,
On a oublié, mais quand il était encore velu, j'ai eu l'occasion de le voir une fois. D'abord, il est vraiment très grand. Il en impose et il a un côté très calme, très rassurant, et assez drôle. Il a vraiment des pics. C'est une espèce de bizarre mélange entre François Hollande et Jacques Chirac, je trouve.
Vous faites rêver là.
Quand on connaît les deux personnages, je crois que Chirac avait vraiment un charisme étonnant et François Hollande avait vraiment quelque chose de très sympathique et rassurant. Ce qui n'empêche que les deux ont été un massacre pour la politique française. Mais en termes de personnalité, ils avaient ce truc. S'il réussit à l'imposer, et puis on a l'impression qu'il va être très aidé par les médias.
Là, il y a une propagande depuis 48 heures qui est obscène, mais qui est logique, parce que c'est maintenant, suite à cette étape électorale, que s'installe la course des petits chevaux. Donc,
Dans un an, on y est, ça y est, c'est à peine une année, un peu plus d'une année.
Alors si vous le voulez bien, par une habile transition, nous allons revenir au numéro 219 de la revue Éléments, que nos auditeurs peuvent trouver dans tous les bons kiosques, dans les kiosques qui subsistent, parce que malheureusement il y en a de moins en moins, mais en tout cas qu'ils peuvent facilement se procurer, ou alors sur notre site internet revue-element.com, pardon. La transition est la suivante. Ces élections ont quand même montré une chose, là je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, c'est la communautarisation grandissante du pays, son fractionnement, son archipélisation. Et un des exemples de cette archipélisation, Daoud Bouguezala l'a trouvé à Romans-sur-Isère, puisqu'il est allé, pour notre revue, faire un reportage de terrain, de plusieurs jours, je crois, à Romans-sur-Isère. Alors déjà, comment vous est venue cette idée, et si vous pouvez nous raconter un peu l'organisation et ce que vous avez découvert en vous plongeant dans cette France périphérique?
Alors l'idée m'est venue tout simplement par François Bousquet, puisqu'il sort ces jours-ci, alors je fais du placement de produits altruistes, il sort ces jours-ci le tome 2 du racisme anti-blanc qui s'intitule « Je crois sale blanc ». Et donc dans ce cadre-là, il s'est intéressé de près à la fameuse affaire Thomas Perrotto, poignardé en novembre 2023 à Crépol, qui est un village non loin de Romans-sur-Isère. Et étant donné la quantité de témoignages qui lui étaient arrivés de toute la France, évidemment, il n'a pas pu faire de terrain. Donc, on a discuté. L'envie m'est venue, en l'écoutant, d'aller à Romans-sur-Isère, voir un peu de quoi il en retournait. D'autant que cette petite ville de... Alors, combien y a-t-il d'habitants ? 33 000 habitants, c'est cela. Malheureusement, en quelques années, a vu les... J'aime pas l'expression faits divers, on va dire les voies de fait, les meurtres se multipliaient pour différentes raisons, beaucoup liées au trafic de drogue, des fusillades. Et donc, cette petite ville a été sous les feux de la rampe, l'objet de différents reportages ou enquêtes. Donc, j'ai voulu y voir de près en y passant 4 jours. Et voilà, j'ai pas été déçu par le voyage. Enfin, c'est profondément déprimant. Alors, par définition, n'ayant pas de recul sur ce que j'ai écrit, j'ai l'impression que l'article est aussi déprimant à lire qu'il a été éprouvant à préparer. Il y a une espèce d'atonie, d'acédie qu'on ressent, qui est liée au climat de rupture de banc avec la politique qu'on décrivait tout à l'heure, qui est intimement liée à cette abstention, enfin qui n'en est qu'un des symptômes. Et, alors, je l'ai écrit au détour d'un paragraphe, en fait c'est un peu le syndicat d'initiative m'en voudra, c'est un peu assassin, mais l'impression que j'ai eue, c'est que même certaines rues sentent le renfermer, en fait, tant le centre, ce qui tenait lieu de centre historique, qui est par ailleurs très beau, a été dépeuplé, déserté, on n'y compte plus les locaux commerciaux vacants. Le nouveau centre, depuis quelques décennies, ressemble un peu à presque une aire d'autoroute. Et puis, vous avez un fameux quartier ghetto immigré 80% algérien, approximativement, qui s'appelle La Monnaie, qui a beaucoup fait parler de lui ces dernières années, notamment dans l'affaire Thomas Perrotto, qui lui aussi vaut le détour. D'autant qu'on était en plein ramadan, ce qui n'est pas anodin pour un quartier qui vit à l'heure, à cette heure-là, en fait.
Oui, alors dans ce reportage, qui en effet n'est pas très réjouissant, mais qui est en tout cas tout à fait passionnant et intéressant, vous rappelez qu'à la base, alors il y a les problèmes d'immigration, dont on reparlera évidemment, etc., ce qui a frappé surtout, c'est la crise économique, notamment la disparition des entreprises de chaussures, parce que c'est l'ancienne capitale de la chaussure de luxe.
C'était la capitale mondiale de la chaussure de luxe, mais attention, évidemment, il y a des difficultés locales, mais ça ne fait pas partie des territoires les plus économiquement sinistrés de France. On n'est pas dans le bassin minier où il y a des générations de chômeurs qui se reproduisent, et même de manière un peu... comment dire, impalpable, en fait, de manière un peu subjective. J'ai déjà fait des reportages dans des endroits très sinistrés industriellement. On ressentait parfois une solidarité, quand même un tissu humain qui se maintenait. Et là, pour des raisons qui en partie m'échappent, on sent que le lien a été brisé. Bon, évidemment, tous les meurtres de jeunes de ces dernières années n'y sont pas tout à fait étrangères. Mais on sent une totale absence de solidarité, et au mieux, lorsque vous allez dans la partie la plus aisée de la ville, c'est-à-dire les rares personnes qui vont encore au restaurant au centre-ville, l'expérience m'en a été donnée, c'est-à-dire que vous déjeunez à côté de 2 tables de vieux, j'ai rien contre eux, vous avez un peu l'impression d'être dans un EHPAD, dans un mouroir, et puis à côté de ça, vous avez un quartier, la Monnaie, tout à fait désespérant aussi, notamment du point de vue de l'insécurité culturelle, de l'insécurité tout court, parce que c'est aussi le haut lieu des trafics. Et puis vous avez la phrase la plus déprimante qui m'était donnée d'entendre là-bas, c'est comme partout ailleurs en France. Alors effectivement, le trafic de drogue se banalise. Et il se trouve que quelques semaines avant mon arrivée, moi j'étais dans le centre ancien de Romans, théoriquement préservé, vous aviez un jeune de 14 ans qui a déclenché une fusillade parce qu'il était partie prenante du trafic de drogue. Et vous avez aussi des appartements nourrices Airbnb qui servent de point de deal intermittent pour la cocaïne et l'héroïne. Et tout ça, apparemment, se généralise partout en France.
Oui, c'est le plus déprimant, en fait, dans le reportage, qui est excellent et très bien écrit.
Merci.
C'est qu'on sait... Le focus a été mis à cause du meurtre de... Oui. Thomas Perrotto, mais il y a des centaines de petits romans sur Isère, désindustrialisés, où on a installé des cités de l'immigration auprès des centres-villes autochtones, où il y a tout un politiquement correct qui tétanise la population, où les gens, comme tu l'as dit, sont individualistes, il n'y a plus aucune solidarité. Donc c'est un miroir un peu glauque de ce qu'est en train de devenir la France, la drogue aussi, effectivement, les drogues de synthèse maintenant qui se trouvent pour absolument rien du tout.
Et qui tue concrètement, puisque le fils de Gladys Dumas que j'ai interrogé, qui s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, en pleine nuit, encore une fois sur le parking d'une boîte de nuit près de Romans-sur-Isère, a pris une balle perdue à cause de deux pieds nickelés envoyés par la DZ Mafia pour intimider le patron de la discothèque. Donc ça tue, concrètement. Et c'est terrible de voir ces gens endeuillés qui, à 45 ans, en fait, leur vie est brisée depuis qu'ils ont perdu leur fils.
Ou qui rend malade, c'est-à-dire que les drogues de synthèse qu'on peut se procurer très facilement et pour pas grand-chose, il y a énormément de gens qui crament leur petit salaire ou leur RSA dans les premiers jours du mois. Et c'est un phénomène massif maintenant qu'on retrouve en filigrane dans le reportage.
Oui, alors sur la question de la drogue, moi qui m'a toujours paru assez fondamentale et pas toujours évoquée selon les bons critères à mon avis, je me souviens d'une déclaration d'Emmanuel Macron qui, tout le monde lui était tombé dessus alors que moi je l'avais trouvé très juste, qui rappelait que pour qu'il y ait du trafic de drogue, il fallait qu'il y ait des clients. Oui. Et que si les clients, et notamment pas seulement ceux qui se trouvent dans ce genre de situation économique ou de ville un peu en difficulté, mais notamment dans les beaux quartiers, ne consommaient pas de la cocaïne dans leur soirée ou des amphétamines dans leur concert, et ben ça réduirait, parce que l'offre et ça marche selon le principe de l'offre et de la demande. Et ça, c'est un peu, à mon avis, l'angle mort. Oui. On veut toujours taper sur les réseaux, on a bien raison, évidemment, il faut lutter contre les réseaux, mais le premier problème, c'est la demande. C'est s'interroger sur les raisons d'une demande aussi importante, d'une consommation aussi générale, qui touche absolument tous les milieux, et j'insiste sur le terme tous les milieux, parce qu'il ne faut pas croire
ça
que
s'est démocratisé
selon son origine
terme,
sociale ou même son orientation politique, on va échapper à cela, malheureusement, loin s'en faut. Et donc il y a une vraie réflexion aussi sur la consommation, sur notre tolérance à la consommation, c'est-à-dire que moi je n'ai jamais compris qu'on puisse rester dans des endroits où on voit clairement des gens consommer de la drogue, quand on a certaines valeurs et certaines idées. On est beaucoup trop tolérant. Il faut rappeler que les gens qui consomment de la drogue non seulement se détruisent, et ça, à la limite, je dirais, c'est un choix individuel. C'est comme boire 3 litres de Ricard par jour si on veut. C'est dramatique, mais ça peut être considéré comme uniquement un choix personnel. Mais quand on consomme de la drogue, on participe activement à un système criminel international qui est, en effet, qui cause des meurtres, des assassinats, des familles brisées, etc., etc. Et on est, à mon avis, autant responsable que le dealer qui vous vend la drogue.
Et d'ailleurs, sans forcément être dans la culpabilisation, d'un point de vue clinique, l'offre et la demande sont pas étanches l'une à l'autre. Un exemple, j'en parlais avec un journaliste local à Romans-sur-Isère. Vous aviez une pauvre fille qui était tombée dans la drogue, à la faveur d'un accident de la vie, qui s'est retrouvée prisonnière d'un réseau de Valence, qui a donc été plus ou moins obligée de louer un appartement Airbnb à Romans-sur-Isère. Et résultat, de Valence, vous avez l'intermédiaire, ça en dit long sur ce que devient une partie de la France, l'intermédiaire qui vient avec sa Renault Scénic, pour être tout à fait discret, il vient recharger en cocaïne et en héroïne, et qu'est-ce qu'il fait? En fait, il prend ses deux petits de 4 et 5 ans, et il charge leur blouson de la marchandise, et eux, à pied, ils font les 10 mètres restants, ni vu ni connu, insoupçonnable, voilà.
Juste une petite remarque, parce que personne ne peut nier ce que vous avez dit sur la responsabilité des consommateurs. Ceci dit, une fois qu'on a dit ça, je pense que moi je suis résolument du côté de l'offre pour tout, pour la politique, pour la consommation. S'attaquer à la demande pour résoudre les problèmes, ça marche jamais. Je vais vous donner un exemple, les appels au boycott. On va boycotter telle marque parce qu'elle a fait telle guerre, telle marque parce qu'elle a tel produit, etc. ou elle a eu tel comportement délictueux. Ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Donc vous ne pouvez passer par la demande en disant aux gens de se moraliser et de faire plus attention à eux. c'est louable sur le d'un point de vue éthique, je ne dis pas, mais pour la résolution des problèmes qu'on a en France, je ne crois pas. Je pense que c'est le contraire qu'il faut faire. C'est, il faut casser la tête et le système qui permet à la drogue de s'installer. Il faut proposer dans le champ politique des choses qui donnent un idéal aux gens, une perspective, un destin au peuple, plutôt que conforter la demande des électeurs.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je pense qu'il ne s'agit pas uniquement de faire des leçons de morale. Je suis d'accord avec vous, de toute façon les leçons de morale ça porte assez rarement, mais comme nous on raisonne aussi d'un point de vue communautaire, je pense que le rôle d'une communauté c'est aussi de se surveiller les uns les autres, oui. Et parfois de se punir aussi, ou de s'ostraciser. Dans la Rome antique il y avait des procédures d'exil pour les gens qui se comportaient mal, et je pense que ça peut jouer aussi, les gens vont pas le faire moralement, mais parce qu'ils veulent continuer à faire partie d'une communauté, ils doivent en suivre les règles, et donc il faut se surveiller, se conseiller, et parfois se punir les uns les autres.
Je pense qu'il y a aussi un aspect d'ingénierie sociale, toute morale mise à part. Je pense que la drogue et l'addiction en général a pour fonction d'abrutir le corps politique, de le calmer, et ça aussi, ça participe aussi de cette espèce d'atonie électorale, enfin politique. Et je généraliserai le problème, c'est pas pour le noyer, à toutes les addictions, que ce soit le sucre, la pornographie, la malbouffe, que sais-je.
Les anxiolytiques.
Bien sûr.
La France est le deuxième plus gros consommateur après les États-Unis d'antidépresseurs. C'est des drogues légales que votre pharmacien, qui est un dealer, donne à tous les Français. C'est un phénomène affligeant.
J'ajouterais, enfin, la pénalisation des clients tout de même, c'est pas une idée à mettre de côté automatiquement, surtout quand il s'agit de ceux qui devaient être les plus exemplaires, c'est-à-dire les élus.
Oui.
Et tu sais qu'on a eu, si vous cumulez, alors c'est très amusant, il y a eu très peu d'articles pour évoquer vraiment le problème de la drogue dans les milieux politiques. Mais en revanche, si vous faites le compte de tous les députés ou sénateurs condamnés, je ne parle pas là, pas de présomption d'innocence, je parle de gens condamnés sur ces dernières années, c'est tout de même assez impressionnant. Il y a eu tout, je
pour
la cite régulièrement,
pour
consommation,
ah oui,
ou voire droguer le verre d'une collègue, oui, pour abuser d'elle, etc. Donc c'est tout de même un sujet.
Très bien, et vous êtes bien sûr sur Radio Courtoisie et nous continuons à parler du numéro 219 de la revue Éléments juste après un petit bobino.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, de retour dans le studio de Radio Courtoisie, François Devoyer, vous vouliez poser une question au camarade Daoud Bouguezala.
Merci. Oui, d'ailleurs, pour simplement terminer sur la drogue et la politique, au Royaume-Uni, ils avaient fait, plutôt intéressant, une enquête avec analyse d'urine de l'ensemble des toilettes du Parlement, de la House of Parliament anglaise. Eh bien, il y avait 20% de réponses positives, donc environ 20% soit des députés, soit de leurs collaborateurs, en tout cas 20% des toilettes.
C'est pas moi, c'est mon collaborateur.
Exactement, c'est ça. Ça peut être très pratique. Non, j'avais une question sur le reportage qui, effectivement, bravo à Daoud, est très bien écrit. C'est désespérant, et je vais peut-être lui poser une question encore plus désespérante. Madame Thoraval, qui est la maire, oui, de Romans-sur-Isère, oui, a très bonne réputation, y compris auprès de gens du Rassemblement National, auprès de tout le tissu local. Elle dit, voilà, si on prend cette ville, quelle chance encore il y a quelqu'un pour tenir, qui tient à peu près la route. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et est-ce que ce n'est pas encore plus déprimant de se dire que même avec un bon maire, quand on atteint ce stade d'effondrement, eh bien, il n'y a pas grand-chose à faire ?
Alors, je n'aime pas donner mon avis personnel, mais si, je vais quand même y répondre. Elle a gagné d'une courte tête, oui, à 200 voix près. Sachant que, comment dire, il y a des questions locales aussi qui nous dépassent un peu. C'est-à-dire qu'elle, par exemple, elle, avec un projet de réaménagement qui peut nous paraître anecdotique à l'échelle nationale, de parking, de réaménagement du centre, elle a à la fois pu décevoir certains qui ont critiqué son manque de concertation, etc. Tout ne s'est pas joué sur ces enjeux-là, hein. Faut le savoir. Mais ce qui est intéressant dans votre question, c'est que le quartier de la Monnaie a été l'objet d'une intense campagne de drague politique, hein, pour le dire vulgairement, c'est-à-dire que les gens autour de LFI ont mené toute une campagne, comme ça s'est vu dans certaines banlieues, pour inciter au vote. évidemment aux ventes contre la mer, et ça a d'ailleurs partiellement réussi, hein, puisqu'elle a... Alors, je ne connais pas les chiffres de la participation dans ce quartier-là, mais elle a quand même failli perdre. Et après, il faut savoir que les pouvoirs d'un maire sont relativement limités. Hein. Le quartier de la Monnaie, par exemple, la police n'y entre... que malaisément, elle est souvent attaquée. Pas plus tard que pendant mon séjour, il y a eu la police municipale qui a peu de moyens aussi, qui a eu le malheur d'y entrer, qui a été attaquée, hein, ce qui a eu pour conséquence d'annuler tout un tas d'activités culturelles prévues pour les jeunes de la Monnaie. Et donc, pour répondre à votre question, vous voulez une appréciation sur Marianne Thoraval ou
Oui, enfin, si ce que vous en avez entendu corrobore ce qui, moi, m'avait été dit par des responsables politiques locaux d'autres partis, en particulier du Rassemblement National, sur elle, et surtout, est-ce qu'on peut remonter une ville comme ça?
C'est la question.
Est-ce que c'est possible? Je voyais les scores tout de même là pour les municipales. Effectivement, elle gagne une courte tête, mais contre une union de la gauche.
Oui.
Et au premier tour, il n'y a pas de candidat à l'Assemblée nationale. Oui. Ça a peut-être d'ailleurs été délibéré, puisqu'elle est relativement appréciée. Mmh. Et malgré cela, malgré l'état de cette ville que vous décrivez, elle ne gagne que d'une courte tête et le RN n'a pas sa place là-bas. Je veux dire, est-ce qu'on peut remonter ce genre de cité quand elle est tombée aussi bas? En tout cas, c'est ce que laisse entendre votre reportage.
C'est compliqué, d'autant que il y a aussi, il y a tout un contexte économique local. Hein. C'est un petit peu la périphérie de Valence, vous voyez, qui a tendance, je l'aborde, à se faire un peu phagocyter par Valence et Grenoble dans une moindre mesure, qui peut-être cherche un second souffle, un second modèle économique. Et par ailleurs, effectivement, elle a polarisé beaucoup pour de bonnes et de mauvaises raisons. Par exemple, la soirée par laquelle s'ouvre le reportage à la Monnaie, où il y a le fameux rodéo sauvage, quelques salafistes, la soirée de Ramadan, en fait, dans ce quartier entièrement communautarisé, la maire, évidemment, c'est l'ennemi public numéro un. Elle est raciste, elle est tout ce que vous voulez. Et finalement, c'est presque une sorte de... Comment dire c'est un ennemi un peu fantoche, parce que ces jeunes sont victimes d'eux-mêmes ou de leurs proches d'une certaine manière. Leur vie est gâchée par les rodéos, la délinquance, etc. Et celle qui essaye pour une part de remédier à ces problèmes est dénoncée comme raciste. Et par ailleurs, vous avez tout un discours démagogique de la gauche sur le fait qu'il ne faut pas stigmatiser, alors même qu'il montre que les chiffres de l'insécurité ne sont pas aussi bons que l'équipe de la maire voudrait bien le montrer, puisque sur 5 ans, c'est très désespérant. Effectivement, sur 1 ou 2 ans, il y a eu quelques améliorations un peu ponctuelles. Donc, est-ce qu'on peut relever une ville pareille? C'est une gageure. Hein. Sans volonté nationale, je sais pas, en fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Puisqu'en fait, il y a eu un certain nombre d'aménagements urbains qui ont été faits ces dernières décennies, mais ça n'a fait que déplacer les problèmes, voire les concentrer à la Monnaie. Et puis, vous avez l'immigration qui appelle l'immigration. Donc finalement, on a l'impression que tout s'entretient. En fait, on est dans une spirale de cercle vicieux. Donc non, j'ai pas de solution.
Rien n'est jamais perdu. Sinon, il n'y aurait pas de politique, on ne ferait pas de politique. La politique, moi, je la définis, c'est l'art de dire oui ou non. On peut tout à fait, un homme politique peut dire non. C'est fini, cette situation est finie, on la change. Il y a des cas très spectaculaires, le président du Salvador, qui était le plus criminogène au monde, avec un grand non sur certains sujets, un grand oui à d'autres, il a fait basculer. C'est ça la politique. Donc oui, une ville peut se relever. Moi, ce qui m'avait marqué chez ce maire, c'était son courage. Au moment où il y a eu l'affaire de Crépol, donc de Thomas Perotto, de son assassinat, elle est allée dans les médias, et elle a tenu tête sur le discours, alors que comment ça se passe dans ces situations-là? C'est comme quand il y a une famille de Français qui se fait, dont un enfant se fait assassiner. Vous avez des agents de l'État et des médias qui arrivent comme des parasites chez lui pour lui donner des éléments de langage, lui dire, mais vous savez, le vivre ensemble
vous
quand
n'aurez
même,
pas ma haine.
Vous n'aurez pas ma haine. C'est toute une ingénierie politique qui se met en branle et qui, c'est aussi certainement abattu sur ce maire d'une ville de 33 000 habitants, donc qui n'est pas grand-chose pour un État qui a d'autres enjeux. Et elle a tenu bon, elle a eu du courage. Et moi, ça m'a donné beaucoup d'espoir.
Alors, ce qui est intéressant chez Marine Toraval, je ne me permets pas de juger son bilan local, n'habitant pas la ville, c'est d'un point de vue strictement métapolitique, elle met des mots sur MOTS, sur des mots MAUX, et notamment, elle a parlé ouvertement de partition. Elle a expliqué qu'il n'y avait pas de zone de non-droit, c'est très juste, mais des zones où un autre droit était appliqué. Preuve m'en a été donnée à La Monnaie, où en 30 secondes, j'ai eu le malheur de prendre en photo des bâtiments... abrité d'ailleurs dans la voiture de mon contact local, et en 30 secondes, vous avez tout de suite un type, spontanément ou non, en voiture qui vous dit « vous n'avez pas le droit ». Alors, sur certaines choses, les principes sont bien établis et on n'y déroge pas. Voilà. Ce qui prouve qu'un autre ordre s'installe, notamment à la faveur des trafics qui ne veulent pas être dérangés. Donc oui, je trouve que Marine Toraval est courageuse, ne serait-ce que verbalement.
Très bien. Mais je voulais poser une dernière question sur votre reportage, mais une question un peu pratico-pratique. C'est-à-dire, comment vous organisez quand vous allez sur place? Comment vous êtes accueilli déjà? Vous avez pris des contacts préalables, je suppose. Est-ce que vous interrogez les gens dans la rue, dans les cafés? Quelle est votre méthode journalistique?
Je vais citer mes sources. Pour une fois, deux personnes m'ont vraiment aidé. Je leur dois une fière chandelle à trouver des contacts. Pas facile. C'est, alors je me trompe tout le temps sur son prénom, Nicolas Boutin, je crois, de Valeurs Actuelles.
Tout à fait.
Voilà.
Salut.
Nicolas Boutin et Baudouin Wisselmann, qui est maintenant, doit être à Frontière, qui était anciennement à Valeurs Actuelles, qui m'ont trouvé d'excellents contacts. Et ensuite, de fil en aiguille, telle personne va vous indiquer telle autre. D'ailleurs, j'en ai maquillé beaucoup à leur propre demande pour leur sécurité, notamment un converti au christianisme. À La Monnaie, ce qui n'est pas chose facile. Voilà.
Très bien. Et vous êtes resté donc 4 jours sur
4
place.
4 jours, oui. Ah, mais ressenti 4 ans.
Bon, en tout cas, encore une fois, félicitations pour ce reportage. Et j'invite donc les auditeurs de Radio Courtoisie à le découvrir dans ce fameux numéro 219 de la revue Éléments, avec une très belle photo de Brigitte Bardot en couverture. Avant de passer à un autre sujet, je vais lire quelques messages d'auditeurs. Alors, un auditeur qui nous dit: avec ce qui va arriver dans les semaines qui viennent, avec les ravages dans le Golfe, toutes ces considérations de politique boutiquière risquent fort de montrer leur caractère dérisoire. Un Édouard Philippe, une copie molle de l'imposteur corrézien, alors qu'en France, on aurait besoin d'un Francisco Franco ou au moins d'un De Gaulle à mourir de rire. Bon, je laisse à cet auditeur ses références historiques, mais en tout cas, oui, il a l'air de penser que Édouard Philippe ne sera pas à la hauteur des enjeux à venir. Un autre auditeur...
Il a tort, parce qu'Édouard Philippe peut débloquer le détroit d'Ormuz tout seul.
Un autre auditeur qui nous dit « Quel que soit le résultat d'une consultation électorale, il n'aura pas de valeur s'il n'est validé par les autorités du système en place, l'Union européenne, etc. Si jamais la France prend un chemin qui n'est pas celui voulu par le système, on le punira comme on a puni l'Irlande, la Roumanie récemment, etc. Oui. etc. Est-ce que ça sert encore de voter, puisque quand on vote mal, en fait, il parle évidemment de du référendum sur la Constitution européenne, on est sanctionné par les institutions européennes. C'est vrai que les institutions européennes ont une importance de plus en plus grande dans notre pays, mais je pense qu'on a quand même encore une marge de liberté, et encore une fois, comme le disait Romain Petitjean, la possibilité de dire non à toutes ces institutions et de les renvoyer à leurs préoccupations premières. Il y avait un dernier message. Tac, 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 tac. Excusez-moi un instant. Oui, non, c'était un peu sur le même ton, les limites de l'électoralisme et la nécessité de revenir à des modes de scrutin plus directs comme le référendum. C'est vrai que la question du référendum est assez centrale.
Mais pour cet auditeur, c'est un peu facile de se reposer sur des entités extérieures qui nous empêcheraient d'avancer, qui nous contraindraient. Alors effectivement, le référendum de 95 et
2005.
Et tout à fait odieux, spectaculaire, j'ai pas de souci là-dessus, mais 97%, 18% des lois qui vous oppressent et qui vous oppriment sont votées par vos représentants que vous avez élus par l'État français. Ça ne vient absolument pas de l'extérieur. Faut arrêter avec ce mythe.
Alors ça a été vrai longtemps. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup des lois qui nous sont imposées, qui viennent quand même de la Commission et du Parlement européen.
Qui sont des retranscriptions des directives européennes.
Mais en tout cas,
c'est vrai qu'il y a aussi une part d'autocensure dans un parti comme le RN où on prend les devants. À fois sous la pression médiatique et on prend les devants, en fait. Il y a une autocensure. Avant même d'arriver au pouvoir, on s'amende, pour le dire gentiment.
Mais ce qui est vrai, c'est que les premières lois qui ont scellé un petit peu notre déclin, et notamment, je pense, à ce drame qui est le regroupement familial, on n'a pas eu besoin de l'Union européenne pour nous l'imposer.
Bon, alors sur les libertés, qui est le thème de notre prochain colloque, tout l'arsenal liberticide, il a été voté par l'État français, par les Français, leurs représentants. Il n'y a pas une loi qui vient de l'Union européenne.
Eh bien, tout à fait, et vous faites en plus une magnifique transition, puisque maintenant nous allons parler du colloque de l'Iliade. Vous avez dit en début d'émission qu'il ne fallait pas être omnubilé uniquement par la politique électoraliste, et qu'il fallait faire de la politique en fait tous les jours, dans tous les domaines. Il fallait réinvestir le culturel, il fallait construire une contre-société qui puisse accompagner un basculement électoral. Il me semble que c'est le rôle de l'Institut Iliade, dont vous êtes le coordinateur ou le responsable du développement, enfin quelqu'un de très important dans cet institut. Est-ce que vous pouvez rappeler, pour les quelques personnes qui ne sauraient pas, ce qu'est l'Institut Iliade, pardon, et quelle est sa mission ?
C'est un institut de formation qui s'est fixé pour mission de défendre et de promouvoir la civilisation européenne dans ce qu'elle a de singulier, dans son identité. Donc on considère que c'est un trésor qui doit être légué aux générations futures, et nous passons pour ça à travers la formation, à travers l'édition, à travers un pôle études et recherche qui travaille sur les idées contemporaines, et aussi ce grand colloque qui rassemble 1500 personnes sur un thème, et là cette année c'est les libertés.
Alors justement, nous sommes là pour parler de ce fameux colloque qui arrive. Donc c'est le samedi 11 avril à la Maison de la Chimie, donc un très beau lieu. Thème, les libertés. Alors vaste thème, est-ce qu'on peut savoir un peu quel sera le programme de cette grande journée ?
Oui, sans problème. Alors nous, ce qui est important pour nous, c'est évidemment la thématique, puisque le casting qui va monter derrière le pupitre. Ce qu'on veut essayer de mettre en avant, c'est que les libertés se conjugue toujours au pluriel et n'ont de sens que quand elles sont enracinées, attachées à la réalité des choses concrètes que sont un territoire, un peuple, une corporation de métier. Or, comme l'a excellemment prouvé Guillaume Travers, donc collaborateur d'Éléments, nous sommes dans une espèce d'inversion où la liberté est revendiquée, proclamée sur tous les toits. Or, plus elle est proclamée, plus on s'enfonce dans une société de contrôle et de surveillance généralisée, parce que justement, les libertés se détachent du quotidien concret des gens et deviennent un espèce de principe volatile qui volerait, voilà, comme ça, dans l'éther des idées. Donc on voit bien le paradoxe dans lequel on est. C'est relevé en partie par Jean-Yves Le Gallou, qui interviendra bien sûr au colloque de l'Iliade, dans le principe de l'anarcho-tyrannie. Mais on le retrouve à plein d'autres endroits. Par exemple, Oberton, Laurent, qui va intervenir aussi au colloque, s'appuie dans une espèce de comparaison des mentalités sur l'homme médiéval. Et finalement, certes, on était dans un endroit, dans un moment avec beaucoup de violence, beaucoup de mortalité infantile, mais le code d'honneur et le fait que la liberté était concrète, elle était attachée à la défense de sa maison, à la défense de sa corporation, à la défense de sa terre, était quelque chose d'extrêmement palpable et de concret. Aujourd'hui, vous n'avez plus la liberté de défendre votre foyer, par exemple. Vous allez avoir tout un arsenal juridique qui, au nom de la liberté, vous empêche de le faire. Donc c'est tout cette société paradoxale où il y a énormément qui dégouline de moraline et de bons sentiments, où on dit on est libre, mais on a envie de dire, mais prouvez-le.
On est libre de quoi ?
Voilà, on est libre d'acheter effectivement une HL en alu sur Temu.
Vous avez l'air d'être très remonté contre Temu.
Non, parce que j'ai acheté une échelle donc, hier, donc c'est l'exemple qui me vient en tête, mais pas sur Temu.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce colloque, qui en est quand même à, c'est quoi, c'est la 13e édition,
hein? 13e édition, 13e
année. Alors, il s'agit évidemment, il y a des conférences de toute la journée, des conférences dans un grand amphithéâtre de plusieurs centaines de personnes, mais ce n'est pas que ça, le colloque. C'est aussi une occasion de rencontres. Il y a des tables rondes qui alternent avec les conférences. Il y a aussi des signatures de nombreux auteurs. Et beaucoup de stands et une buvette. Et en fait, il y a tout un aspect aussi de convivialité communautaire qui est assez important.
Oui, alors nous, on appelle ça un grand opéra européen. On essaye de faire jouer toutes les notes de musique. À la fois, il y a des moments sensibles avec des respirations artistiques, de la musique. Il y aura de la danse trad cette année, puisque le colloque se poursuivra avec un grand bal toujours à la maison de la chimie. Il y a une carte blanche artistique où en fait on donne une carte blanche à des artistes pour traiter le thème de l'année, en l'occurrence les libertés. On considère que une image vaut un bon discours ou un bon livre. Il y a effectivement aussi tout le travail qui est fait sur une année par le pôle études, qui va à travers des cahiers de type académique aller encore plus profondément dans le travail sur ce thème que les discours qu'on aura au pupitre. Donc j'ai cité Jean-Yves Le Gallou, Laurent Auberton, il y aura Thibaut Gibelin qui va parler de la liberté des peuples, comment un peuple peut à l'échelle collective maintenir ou reconquérir ses libertés. Donc là on est pour le coup à rebours de la liberté de type émancipation individuelle. Un peuple ne peut pas être un agrégat d'individus qui contractualiserait pour obtenir de la liberté. C'est parce qu'il y a un destin populaire, parce que le peuple a une vie en tant que telle qu'il peut défendre et conquérir ses libertés. On aura également le professeur Coronel de Boissezon qui va nous retracer la longue histoire de la liberté de parole et de pensée. C'est la parésia, c'est-à-dire la faculté de tout dire en grec, qui est intrinsèque à la civilisation européenne. C'est l'art du disputatio, c'est l'art de la controverse, c'est l'art du débat contradictoire. Autant de choses qui disparaissent. C'est-à-dire on voit des débats, mais ils sont souvent assez caricaturaux et ils sont souvent aussi éteints soit par l'arsenal juridique liberticide, soit par la moraline ambiante où on va très rapidement disqualifier un adversaire qui n'a pas le droit d'utiliser tel mot, telle référence historique, tel symbole. Et la liberté qui est acquise par la discussion, par le disputatio, devient de plus en plus difficile à obtenir.
Très bien. Alors déjà, pour les auditeurs qui seraient intéressés par ce colloque, comment peuvent-ils procéder pour s'y rendre? Il faut s'inscrire, je suppose, à l'avance?
C'est ça. Alors l'année dernière, on a fait complet. Nous étions quasiment 1500. Donc il y a quasiment plus, depuis quelques années, la possibilité d'acheter son billet sur place. Donc c'est vraiment, si vous souhaitez venir, achetez-le en pré-vente. Vous allez sur institut-iliade.com. Vous l'avez dit, il y a une buvette, c'est un moment de convivialité, c'est aussi un moment, c'est la vocation de l'Institut Iliade européen. Nous sommes vraiment un des centres de l'Europe le 11 avril prochain. Nous avons juste avant le colloque une formation européenne où nous accueillons 24 stagiaires de 12 nationalités différentes, où nous allons leur transmettre une forme de substantifique moelle du programme de la formation générale Iliade consacrée à la géopolitique, aux idées non conformes, à la philosophie, à la science politique. Et donc, nous avons également nos livres qui sont maintenant traduits dans 7 langues différentes. Et donc, il y a tout un mélange européen. Il y a cette langue européenne qui est la traduction. Les gens se parlent entre eux, pas qu'en anglais technique. On entend parler de l'allemand, de l'italien et évidemment du français qui est la langue reine le 11 avril.
Alors messieurs, est-ce qu'on vous verra le 11 avril à la maison de la chimie?
J'espère que oui. Hein. C'est que non, mais moi c'est prévu depuis plusieurs mois, malheureusement j'ai un baptême, voilà.
Bon, c'est une excuse à peu près acceptable.
C'est une excuse, voilà, depuis décembre, et je le regrette beaucoup, et bien entendu, il faut absolument se rendre à ce colloque parce que on parlait du dégoût de la vie politique, de la paralysie d'une partie du corps social. J'ajouterais peut-être que le Covid a détruit ce qui restait de sociabilité très française. De terrasses d'échanges, de débats. Les réseaux sociaux n'aident pas non plus en massacrant la nuance. Et ce genre de moments sont vraiment précieux dans la vie militante, dans la vie de la cité tout simplement. Et puis c'est l'occasion aussi de faire découvrir à des gens qui ont eu, soit ne savent pas ce que c'est que l'IAD, c'est la majorité du genre, mais soit ne le savent pas ou ont une mauvaise image de ce milieu militant. Et je vous assure, moi je me souviens de ma première fois, entre guillemets, c'est presque, il y a presque une, quelque chose de sexuel dans le militantisme politique, vous voyez.
On y est, c'est parti là, 15, là l'émission ans. Commence vraiment.
Voilà, là je veux que les auditeurs nous entendent. Non mais c'est vrai qu'il y a ces premières fois, on découvre le premier espace militant, le premier débat, le premier meeting. Ben c'est souvent une très très bonne surprise. En l'occurrence, vous êtes certain que vous ne serez pas déçu parce que cela tient la route aussi bien intellectuellement que sur le plan amical.
Et Radio Courtoisie, notre chère radio sera évidemment présente, aura un stand, il y aura Maëlys Clauzel qui suivra à travers un reportage toute la journée, à la fois elle vous interrogera en fait, hein, vous aurez le droit à la parole.
Oui, et bien évidemment, la revue Éléments sera également présente avec un stand où vous pourrez venir nous rendre visite et entamer des discussions.
Et acheter, non, peut-être.
Et acheter massivement. N'hésitez pas, c'est le moment ou jamais, en effet.
On peut faire beaucoup d'emplettes, préparer les cadeaux de naissance, de mariage, les prochains futurs cadeaux de Noël. C'est autant d'argent que vous ne mettrez pas dans soit des chinoiseries,
des
soit
échelles, des Temu.
Voilà, exactement. Donc c'est vraiment l'occasion pour ceux qui viennent, garnissez votre portefeuille parce que l'argent va très bien circuler vers les bonnes personnes. C'est un endroit, l'Institut Iliade de manière générale et le colloque, je pense, où on peut rencontrer de bonnes personnes qui mettent pas genoux en terre, qui baissent pas les yeux dans la léthargie actuelle, qui ont une forme de fierté de leur héritage, de leur patrimoine français et européen, et qui, avec une forme de force tranquille, disent « nous voulons continuer la grande aventure européenne, on en a marre des oukases, on en a marre des liberticides, c'est le thème de cette année, mais on a le devoir de continuer cette grande aventure européenne ».
Oui, et je pense que c'est d'autant plus important d'aller à ce colloque, donc samedi 11 avril, pour découvrir à la fois ce qu'est l'Institut Iliade et toutes les associations et les groupes qui seront représentés, que parfois, en effet, il y a autour de, je le vois, autour de la Nouvelle Droite, autour d'Éléments, autour de l'Iliade, des idées reçues, des auras plus ou moins sulfureuses qui deviennent d'on ne sait pas où, des fausses perceptions de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Donc c'est intéressant de ne pas se fier qu'à des on-dit et à des discussions sur les réseaux sociaux de gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, et de se rendre compte et de venir partager ce moment de camaraderie et de communauté. Et c'est vraiment je crois que j'y suis allé depuis le début et c'est toujours
excellent.
Un moment important de l'année et qui redonne de l'énergie justement pour le combat politique et métapolitique.
Vous parliez de Nouvelle Droite et donc nous publions en exclusivité à l'occasion du colloque un pavé de, je crois, 500 pages, un panorama historique et métapolitique de la Nouvelle Droite. Pour une plongée dans cette école de pensée dans laquelle s'inscrit l'Institut Iliade et Éléments, évidemment, et une école qui fait florès. Peut-être qu'en France, elle n'a pas eu toujours les lumières qu'elle aurait dû avoir, mais il est fascinant de voir à quel point les auteurs, les idées de la Nouvelle Droite sont populaires, connues, fascinent en dehors de nos frontières. Nous sommes extrêmement attractifs et donc il était temps de faire un livre de ce type. Et notre camarade Bénédicte Kaiser, qui justement a écrit un livre important en Allemagne, c'est « Vers l'hégémonie ». La bataille culturelle en Allemagne. Nous venons de publier donc en français son livre. Il sera là pour le dédicacer dans les nouveautés.
Parfait. Et comme on est dans les annonces commerciales et qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, j'en profite pour préciser que je serai moi-même présent donc au colloque de l'Iliade pour dédicacer mon dernier ouvrage qui est le recueil de mes chroniques dans la revue Éléments. Ça s'appelle Une fin du monde sans importance et c'est le volume numéro 3 avec notamment une belle préface d'Alain de Benoît et une postface tout aussi intéressante de Michel Marmin. Donc je serai au colloque de l'Iliade entre midi et deux, je crois, pour dédicacer cet ouvrage et les autres.
Je ne l'ai pas encore lu, mais il paraît donc qu'Alain de Benoît tente de faire lui aussi une nouvelle.
Il fait un pastiche d'une
chronique. C'est réussi, il ne nous écoute pas, dites la vérité.
C'est plutôt réussi, c'est plutôt réussi, mais je n'en ai jamais douté. Mais... Voilà, donc le rendez-vous est pris avec tous les auditeurs qui voudront se rendre à ce grand événement. Franchement, n'hésitez pas, on passe un bon moment. Les familles sont les bienvenues, hein. Je crois que vous le précisez régulièrement, mais il y a des jeunes femmes qui seront là pour s'occuper des enfants une partie de la journée.
Il y a des jeunes femmes pour s'occuper de vous, si vous voulez. Et ça, je vous en ai pas parlé, on en parle tout à l'heure. Il y a tout ce qu'il faut pour les familles qui sont évidemment bienvenues pour que voilà, les bambins puissent jouer courir dans le jardin. Et donc, je rappelle que la nouveauté cette année pour ceux qui veulent revenir, qui connaissent, c'est qu'il y a en plus un bal avec dans la journée des initiations aux danses trad pour le soir. Là, les places sont encore plus limitées dans la journée, donc la nécessité d'acheter son billet en pré-vente est encore plus importante.
Voilà, donc vous avez deux choses à faire en toute urgence à la fin de cette émission, c'est de vous ruer dans les kiosques pour acheter le numéro 219 de la revue Éléments, et après vous rentrez chez vous, sur votre ordinateur, vous prenez votre place pour le colloque de l'Iliade. Il nous reste...
Revue Éléments, je vous coupe, hein, mais oui. Je dois quand même saluer les auditeurs de l'Iliade, puisqu'ils sont quasiment 5 ou 6 à écrire dans la dernière livraison.
On a un
auditeur, Boisfer, qui écrit un très bel article sur Singer, le philosophe
australien,
exactement, antispéciste. il y a Gabriel Fouquet, dont vous l'avez cité.
Sur l'expressionnisme allemand.
Gabriel Pignès sur la réception de la néo-réaction aux États-Unis. Enfin voilà, les auditeurs Iliade participent à la chose
activement,
intellectuelle
bien
grâce
sûr.
À Éléments.
Et renouvellent en effet la rédaction d'Éléments en apportant leur jeunesse et leur connaissance des nouveaux phénomènes politiques, métapolitiques et culturels. Je disais qu'il nous reste une dizaine de minutes. Je voulais alors évoquer, voilà, ça va être très court, mais quand même une deuxième contribution de Daoud Bouguezala, pardon.
Enfin, c'est surtout Olivier Zajec.
Oui, à ce numéro 219, c'est son entrevue justement avec Olivier Zajec, qui est une revue, elle aussi, une entrevue tout à fait passionnante sur la question de la stratégie américaine actuelle, ou de sa non-stratégie d'ailleurs, d'une certaine façon, enfin, qui se penche sur les différentes composantes de l'entourage de Donald Trump et des raisons de ses interventions, de ses revirements. C'est vraiment, parce qu'on a du mal, il faut quand même reconnaître un peu à s'y retrouver actuellement dans la politique de Donald Trump. Donc c'est vraiment un entretien avec Olivier Zajec qui est passionnant. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter Olivier Zajec rapidement pour ceux qui ne le connaissent pas?
Olivier Zajec est un spécialiste de la pensée stratégique nord-américaine, à laquelle il a consacré sa thèse. Il est professeur de relations internationales à l'université Lyon 3. Il dirige aussi un centre de recherche. Et donc, il connaît sur le bout des doigts tous les auteurs à la pensée stratégique américaine, notamment les différents cercles idéologiques parfois contradictoires dans l'entourage de Trump, ce qui reste de néoconservatisme, notamment avec un sénateur comme Lindsey Graham, un pôle plus réaliste qui d'ailleurs en ce moment est sur la réserve par rapport à la guerre en Iran incarné par le vice-président J.D. Vance, et puis un courant que j'ai découvert en discutant avec Olivier Zajec qui est la mouvance qu'il appelle anti-intellectualiste représentée notamment par le secrétaire d'État à la Défense Pete Hegseth. Alors si vous assistez à une de ces conférences de presse, vous comprendrez vite ce qu'est l'anti-intellectualisme en acte, voilà, et qui en ce moment se déchaîne notamment au-dessus de l'Iran. Voilà.
Oui, alors une des thèses de Zajec, c'est de dire qu'en fait, cette espèce de course en avant ou d'hyperactivité ou d'activisme des États-Unis s'explique par une volonté de cacher un déclin relatif, mais un déclin qui n'est pas enrayé. L'impression de puissance, en fait, masquerait un déclin plus fondamental des États-Unis dans le monde, qui ne serait plus aussi hégémonique que par le passé.
Oui, en fait, il s'agit de sauver ce qui peut encore l'être face à la montée en puissance de la Chine, hein, qui est appelée à supplanter l'hégémonie américaine à l'échelle mondiale. Et alors, ça va donner des politiques contradictoires, hein, puisque Trump s'est quand même fait élire sur les refus de l'aventurisme des guerres, notamment au Moyen-Orient. On voit ce que ça a donné ces dernières semaines et ce que ça a peut-être encore donné avec l'hypothèse d'une opération terrestre en Iran, au moins à l'échelle du Nil. Et donc oui, effectivement, il y a l'idée chez un certain nombre d'auteurs qui ont influencé les cercles autour de Trump et de MAGA que, quand bien même il s'agit de sauver la puissance américaine dans telle ou telle région, les intérêts, par exemple, contre un ennemi historique, Cuba, le Venezuela, l'Iran, on ne pourra pas, de toute façon, jouer à jeu égal avec la Chine. Donc, pour ça que j'ai appelé l'entretien Trump syndic du déclin de l'Empire américain. Il s'agit de ne pas se faire abuser. Et par ailleurs, on assiste à une réplique de la fameuse fable Chêne et le Roseau en ce moment en Iran, où la supériorité américaine et israélienne technologique incontestable a provoqué de nombreux dégâts chez adversaires. Hein. Les têtes du régime militaire, politique, etc. sont tombées. Mais tous les ingrédients sont réunis pour une défaite stratégique des États-Unis à la faveur de ce qui reste de l'Iran.
Alors, il y a une phrase que j'ai particulièrement notée dans cet entretien, c'est Olivier Zajec qui nous dit « Par leur brutalité, les Américains donnent l'impression qu'ils renouent avec l'image qui était la leur au début du XIXe siècle, celle de parvenus politiques, manquant d'éducation, s'asseyant sur les codes de la sociabilité diplomatique. » Alors, je trouve ça très vrai, mais moi, ce qui me surprend un peu, c'est que pendant longtemps, justement, cette mauvaise éducation et cette brutalité, elle nous choquait, elle choquait l'Europe, elle était moquée même, elle était dénoncée par les Européens et notamment les Français. Or aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est admirée, qu'elle fait rêver.
Elle fascine,
c'est-à-dire on voudrait que ce soit ça la nouvelle norme. Est-ce que, je vous interroge un peu tous les trois, vous comprenez cet engouement français qui persiste malgré les changements de politique pour Trump et le Trumpisme?
Alors, oui, dans le sens où l'ordre westphalien, donc une sorte d'équilibre des forces avec un ordre et un règlement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de puissance ou qu'il n'y a plus de force. Et aujourd'hui, cette espèce d'état de fait ou d'équilibre s'accompagne de faiblesse, d'abandon du politique, d'abandon de la force, d'abandon de la puissance. Donc les deux se sont un peu malheureusement mélangés. Et aujourd'hui, cet ordre qui ne fonctionne plus est associé à la faiblesse ambiante. Donc on se retrouve dans ce paradoxe-là, et les peuples, ils veulent, comme les hommes, conquérir à chaque moment de leur vie la moindre parcelle de puissance. On a ça en nous, c'est ce qui fait que nous avançons en tant qu'individus et en tant que peuple. Et comme nous n'exprimons pas nous-mêmes en tant que Français et Européens la moindre parcelle de puissance, le premier qui le fait devient fascinant.
Daoud, vous partagez cette opinion ?
J'avais eu cette discussion avec Olivier Zajec, il en est resté quelques lignes dans l'entretien d'ailleurs, sur la confusion entre force et puissance. Effectivement, il y a une aspiration à la puissance, peut-être une nostalgie de la puissance perdue par l'Europe et singulièrement par la France, et dans l'espèce de galimatia, tout le discours et les actes un petit peu désordonnés de Trump, en tout cas on voit un déploiement de force, ça c'est incontestable. Est-ce une véritable puissance ? On peut en douter. Bon, à titre un peu anecdotique, quand on voit que Trump se réjouit du fait que l'Iran laisse entrer, alors je crois, une vingtaine de pétroliers dans le détroit d'Ormuz, il voit ça comme un cadeau extraordinaire. Alors là, c'est quand même un aveu de faiblesse de la part de la puissance mondiale militaire.
Tout à fait. François de Voyer, vous, Trumpiste, pas Trumpiste?
Pas du tout. Je rejoins par ailleurs mes deux camarades voilà, c'est ce qui a déjà été dit, mais je crois qu'il y a autre chose. Voilà, il y a un monstre qui surgit, comme dans toutes les crises. On commence avec Gramsci, on termine avec lui. Ce monstre n'est pas très beau à observer, je trouve. Par ailleurs, je crois qu'il y a cette fascination, elle vient beaucoup de la droite, d'une partie de la droite française, et je crois qu'il y a toujours eu une partie de la droite française qui a un tropisme pour l'étranger, une fascination pour la brutalité, tant qu'elle est en œuvre loin de nos frontières, une espèce d'esprit anti-intellectualiste aussi, d'ailleurs, qui a toujours parcouru notre camp, Et qui aujourd'hui s'aligne avec d'autres péchés originels de la droite, comme l'esprit de pureté, l'esprit d'entre-soi. Voilà. Je crois qu'on retrouve pas mal de vieux démons qui ont parcouru notre camp.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une part de projection, c'est-à-dire que c'est peut-être parallèle au déclin de la France, parce que par exemple en 2003, je n'ai pas souvenir que l'anti-intellectualisme et l'aventurisme de George W. Bush en Irak aient suscité l'engouement, y compris des milieux droitiers.
En tout cas, pas de la même droite. C'était une partie de la droite libérale à l'époque. Là,
oui,
aujourd'hui,
très, vraiment réduite à portion congrue, Madeleine.
Alors, le paradoxe, c'est que j'ai retrouvé des gens de la droite libérale qui sont fascinés par Trump, qui étaient oui. Macronistes, qui disent ben, voilà quelqu'un qui a le courage oui. d'agir. Voilà.
Il est fascinant. Et d'ailleurs, il y a ce que dit Alain de Benoît sur Trump et la France, ou Trump et la droite, et d'ailleurs. Très intéressant. Ouais. Il y a effectivement des choses qui sont fascinantes, qui nous poussent à réfléchir contre nous-mêmes, à nous poser des questions. Simplement, il sert des intérêts qui ne servent pas les nôtres in fine. Et donc, il y a cette confusion qui se fait. C'est le fait qu'un Poutine ultra-puissant, un Trump ultra-puissant, un Ayatollah par-ci ou par-là ultra-puissant, il est puissant au service de ses intérêts, pas de celui qui le regarde dans la petite lucarne. Donc il y a quand même un peu une paresse intellectuelle à passer de la fascination pour un homme fort qui défend les intérêts de son peuple et de sa terre en imaginant qu'il va le faire pour ses propres intérêts.
J'ai lu hier un parallèle très intéressant que je trouve assez pertinent de Renaud Girard dans le Figaro sur l'erreur d'appréciation de Poutine en 2022 qui avait sous-estimé la puissance de résistance ukrainienne et l'erreur historique de Trump cette année en attaquant l'Iran. Le parallèle était assez convaincant
ouais.
Et donc je doute même que Trump servent les intérêts américains, ne serait-ce que ses intérêts politiques électoraux à moyen terme, en vue des mi-termes, s'il provoque une crise énergétique mondiale totalement déchaînée, s'il appauvrit son propre électorat et qu'il s'enlise au Moyen-Orient.
C'est vrai. Ouais. Juste sur l'entretien,
on
peut quand même dire qu'il faut le lire parce que donc Olivier Zajec, c'est l'école réaliste. Mmh. Donc il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de morale dans son analyse. Il fait de la géopolitique, il regarde les tensions, les puissances, etc. Et c'est absolument passionnant comme entretien pour cette raison-là notamment. C'est assez froid, mais c'est juste.
Très bien, et ben merci. J'espère que cela a donné envie aux auditeurs de Radio Courtoisie de découvrir ce nouveau numéro d'éléments. Il me reste une minute, donc je vais en profiter pour remercier une nouvelle fois mes invités. Merci d'être venus participer à cette émission. Pour certains d'entre vous, on se retrouvera donc au colloque de l'Iliade le 11 avril à la maison de la chimie. En attendant, je vous souhaite bonne lecture des différentes revues de notre milieu qu'il faut soutenir. Je rappelle, parce que je suis très égotique, la sortie de mon ouvrage Une fin du monde sans importance, volume 3. N'hésitez pas, c'est pour toute la famille, c'est du feel good, comme on ne devrait pas dire sur Radio Courtoisie. Et bien en tout cas, merci. On se retrouve dans un mois pour cette émission Libre Journal de la Nouvelle Droite. Un grand merci aussi à la technique sans qui nous ne saurions rien. À très bientôt. Bonne journée.
D'entendre le Libre Journal de la Nouvelle Droite, dirigé par Xavier Aymon, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mardi 31 mars 2026, de midi à 13h30, et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.